So cannelloni, macaroni, kiss. Bonjour à tous, jeudi 28 juillet, bienvenue dans cette édition du Débrief, il est 16h. En interview aujourd'hui, l'auteur, compositeur, interprète montréalais Matt Stern, qui passe l'été à Victoria et s'affaire à peaufiner un album qu'il va bientôt lancer. Vous pourrez entendre cette interview avec Matt vers 16h40. Pour l'heure, on saute tout de suite dans le vif des infos avec les bulletins de Denis Lépine. On se retrouvera de l'autre côté dans quelques minutes avec les nouvelles provinciales, entre autres. Bonne émission à tous! La production du Débrief est rendue possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Ottawa a confirmé son engagement à améliorer le processus de création de nouvelles réserves. Le gouvernement a également indiqué qu'il ajoutera des terres aux réserves amérindiennes existantes. La ministre des Affaires autochtones et du Nord, Caroline Bennett, a déclaré que cette nouvelle directive répondra mieux aux besoins des autochtones et des non-autochtones. Elle a ajouté que le but est d'accroître aussi la transparence du processus. Le ministère a fait mention dans une dépêche que la nouvelle directive aidera à promouvoir une meilleure collaboration entre toutes les parties concernées, entre autres les municipalités. Stéphane Dion poursuit son voyage outre-mer qui l'amène aujourd'hui au Sri Lanka. Le ministre des Affaires étrangères était au Laos plus tôt cette semaine. La visite au Sri Lanka, qui se terminera demain, verra le ministre travailler au consolidement des relations bilatérales entre le Sri Lanka et le Canada. Stéphane Dion doit passer aussi une journée à Jaffna afin d'aller voir des projets de développement soutenus par le Canada. Il rencontrera des victimes également de la guerre civile. Depuis mercredi et ce jusqu'au 7 août prochain, une quarantaine de soldats canadiens prennent part à l'exercice Cyber Guardian 2016. L'exercice est dirigé par les États-Unis à Sinsu en Roumanie. Plus de 2500 militaires provenant de 11 pays participent à l'exercice. Celui-ci vise à améliorer l'interopérabilité au sein d'une brigade multinationale et l'exercice comporte une simulation par ordinateur combinée à un volet d'entraînement en campagne. Le ministre canadien de la Défense, Arjit Sajjan, a dit que le Canada va continuer d'accorder la priorité au renforcement des capacités de défense et à la consolidation des partenariats en Europe centrale et en Europe de l'Est. C'est aujourd'hui à Durban, en Afrique du Sud, qu'a lieu la 21e conférence internationale sur le sida. La ministre canadienne de la Santé, Jane Philpott, participe aux discussions. 18 000 délégués de partout dans le monde sont sur place. Le thème de cette année, accès, équité, droit. Selon la conférence, 37 millions de personnes vivent avec le VIH et environ 2 millions de nouveaux cas sont recensés annuellement. Le premier ministre Justin Trudeau a fait une déclaration au sujet de la visite au Canada du duc et de la duchesse de Cambridge cet automne. Il a dit que le Canada est enchanté de la venue du couple. Il a ajouté que pendant leur séjour, eh bien, les invités se rendront en Colombie-Britannique et au Yukon. Justin Trudeau a précisé qu'il s'agira de la deuxième visite du couple au Canada et que l'événement sera aussi l'occasion pour les Canadiennes et Canadiens d'en apprendre davantage au sujet du patrimoine, des traditions et des institutions canadiennes. L'itinéraire détaillé de la tournée sera publié à une date ultérieure. Publication du plus récent rapport sur l'évaluation du marché de l'habitation de la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Et parmi les faits saillants du rapport, notons que les conditions problématiques les plus courantes dans les 15 centres visés par le document demeurent encore une fois la surévaluation et la construction excessive. Et le rapport indique qu'elles ont augmenté à Vancouver depuis le précédent rapport, mais sont à la baisse à Ottawa. Pour ce qui est d'Edmonton, Winnipeg, Hamilton, Montréal et Québec, les signes de conditions problématiques sont modérés. Marc Garneau a rencontré les chercheurs de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal hier. Le ministre fédéral des Transports a profité de l'occasion pour visiter quelques laboratoires et plateformes scientifiques. Il s'est entretenu avec quelques-uns des chercheurs. Ces derniers ont discuté avec le ministre des avancements de la recherche de traitement contre le cancer et des enjeux entourant le financement de la recherche. Journée mondiale contre l'hépatite au Canada aujourd'hui. Le Canada a adopté pour sa part la stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale lors de la 69e Assemblée mondiale de la santé tenue récemment à Genève en Suisse. Au sport, au tennis, à la Coupe Rogers à Toronto, Milos Raonic et Novak Djokovic seront de la troisième ronde. Et pendant ce temps, Montréal, Venus Williams a remporté son premier match et Eugénie Bouchard a pour sa part gagné son match de deuxième tour. Baseball majeur gagne de San Diego 8-4 contre Toronto. Les Jays sont en congé aujourd'hui. Ils recevront Baltimore à compter de demain soir. Au hockey, les sénateurs d'Ottawa se sont entendus avec Mike Hoffman. Il est question d'un contrat de 4 ans d'une valeur de près de 21 millions de dollars. Et au football canadien, ce soir, une rencontre. Winnipeg sera à Edmonton.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Vous êtes dans l'émission Le Débrief. L'info se poursuit jusqu'à 17h. Alexis Gagnon au micro. On va commencer avec les nouvelles de l'Ouest canadien et les nouvelles de la Colombie-Britannique. L'Alberta s'attaque de façon sérieuse aux émissions de GES, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. La province canadienne, considérée comme la plus polluante à cause principalement de sa production pétrolière, instaurera le régime de tarification des émissions GES le plus strict du pays d'ici 2020. C'est ce que révèle un rapport de la Commission de l'éco fiscalité du Canada, mais on y indique que c'est la rigueur des règles imposées aux entreprises qui aident à réduire les gaz à effet de serre, les GES, plutôt que la tarification des émissions de carbone. En janvier 2017, la tarification de ces émissions entrera en vigueur donc en Alberta. Cela permettra à cette province d'avoir parmi les politiques les plus sévères pour ce qui a trait à la couverture des émissions de GES. En 2020, le prix d'une tonne de carbone émise en Alberta se chiffrera à 23 $, alors qu'elle sera de 20 $ en Colombie-Britannique et de 18 $ en Ontario et au Québec. La tarification du carbone au Canada, c'est des responsabilités provinciales, mais aussi fédérale. Donc, cette nouvelle parue dans la presse canadienne nous apprend que l'Alberta s'attaque aux émissions de GES. C'est pas trop tôt, puisque l'Alberta a un dossier assez lourd en la matière. On sait que les champs d'exploitation de sable bitumineux émettent énormément de polluants atmosphériques. C'est un volume, oui, qui atteint vraiment des niveaux incroyables, comparables à ceux de villes comme Mexico City et d'autres métropoles mondiales. Donc voilà une nouvelle dont on peut se réjouir en provenance de nos voisins de l'Alberta. Je vous parle à présent des Canadairs. Vous connaissez les Canadairs, ce sont ces avions citernes qui permettent de d'éteindre des incendies de forêt. On en avait déjà parlé dans le débrief brièvement. C'est une transaction en fait qui nous fait reparler d'eux. Les Canadairs ont été vendus. L'avion iconique, emblématique de Bombardier a été cédé à l'entreprise britanno-colombienne Viking, en raison d'un carnet de commandes plutôt à sec. Bombardier a décidé de se débarrasser de cet avion, de la fabrication de cet avion, pourtant célèbre dans tout le monde entier. Alors, c'est un symbole majeur de l'aéronautique canadienne qui vient de changer de main, écrit le journaliste Denis Fincebiller dans le journal Les Échos, qui est un quotidien européen économique. Avec leur étrave de navire caractéristique, leur flotteur en bout d'aile et leur possibilité d'écoper de l'eau douce ou salée en effleurant des plans d'eau en 12 secondes seulement, les Canadair sont toujours les seuls avions occidentaux spécifiquement conçus pour la lutte contre les incendies de forêt. Pourtant, leur propriétaire, Bombardier, victime d'un carnet de commandes totalement à sec, vient de jeter l'éponge en cédant les droits de fabrication des anciennes et actuelles générations, les CL-215 et CL-415 respectivement. Donc, droits de fabrication cédés au fabricant Viking, qui est basé ici en Colombie-Britannique. C'est au moins, on peut se réjouir du fait que cette fabrication demeurera canadienne. Il faudra voir justement quel volume d'activité, à quel rythme Viking construira de nouveaux bombardiers d'eau, comme on les appelle aussi, de nouveaux Canadair au cours des prochaines années. Je vous parle à présent d'un fait divers qui concerne une résidente de Colombie-Britannique. Une Canadienne de 63 ans, apprend-on, originaire de Langley en Colombie-Britannique, non loin de Vancouver, a été arrêtée avec près de 38 kilos d'héroïne à Modesto, en Californie, cette semaine. Kathleen Landry a d'abord été interceptée lundi sur l'autoroute 99 au volant d'une Nissan Titan par un patrouilleur qui avait relevé une petite infraction au code de la route. Pendant le contrôle, le chien policier qui accompagnait a détecté une possible présence de stupéfiants. Rapidement, les patrouilleurs ont obtenu la permission de fouiller le véhicule, et c'est en fouillant qu'ils ont découvert les 38 kilos d'héroïne d'une valeur marchande estimée à plus de 2 millions de dollars. La conductrice a été arrêtée pour transport et possession d'une substance contrôlée. Autrement, je souhaitais vous reparler de cette taxe qui entre en vigueur au lendemain du BC Day, le 2 août. C'est une taxe qui répond à la crise de la surenchère des prix de l'immobilier. Vous le savez, on en a déjà parlé dans le débrief, une taxe de 15% sera désormais imposée aux acheteurs étrangers qui souhaitent faire l'acquisition de biens immobiliers en Colombie-Britannique. Et on a appris aujourd'hui que le produit de cette taxe, donc les sommes amassées grâce à cette taxe, seront en partie consacrées au logement social en Colombie-Britannique. Donc c'est une excellente nouvelle. Espérons que, comme on le disait dans les jours précédents, cette taxe de 15% ne pourra pas être contournée facilement par les acheteurs étrangers, auquel cas elle serait inutile et apporterait probablement peu de revenus. Donc si la taxe fonctionne, effectivement, et on espère bien sûr qu'elle fonctionnera et contribuera à calmer le jeu dans le marché de l'immobilier en Colombie-Britannique, ou du moins dans la région de Vancouver. Pour l'instant, cette taxe, précisons-le, ne concerne que Vancouver. Les produits de cette taxe seront versés à des organismes et au ministère qui s'occupe de logement social, d'initiatives entourant le logement social et l'accès au logement en général. C'est une nouvelle qui a été annoncée conjointement par les ministres Mike DeJonge et Rich Coleman cette semaine. Donc, ils sont ministres des Finances et ministres du Logement. Rich Coleman est ministre du Logement et Mike DeJonge est ministre des Finances. On a 25 degrés actuellement sur Victoria. Très belle journée d'été. Les températures estivales se poursuivent. On a une prévision météorologique de bon augure sur le site de météo.gc.ca, le site d'Environnement Canada. On nous annonce demain une journée sans nuages. Encore une fois, le soleil dominera avec un maximum de 23. Un maximum de 25 pour le vendredi 29 juin. Samedi 30 juillet, on aura 23. Dimanche 31 juillet, on aura 22 degrés. Et pour le BC Day, jour férié du 1er août, on aura 24 degrés. Et ça semble se poursuivre ainsi jusqu'au mercredi 3 août. Donc aussi loin que les météorologues de Environnement Canada peuvent voir et prédire. Vous le constaterez vous-même en vous rendant sur le site météo.gc.ca. Donc, du beau temps pour les prochains jours. On peut présumer que l'indice de feu va remonter sensiblement au cours des prochains jours avec ce temps sec. Il était plutôt bas jusqu'à récemment, donc il y aura sûrement une inversion de la courbe pour ce qui concerne les dangers associés aux feux de forêt. On va s'arrêter quelques instants, on écoute la musique de Matt Stern, un musicien montréalais qui passe l'été à Victoria et qu'on entendra en interview un petit peu plus tard dans l'émission, vers 16h40 ou 16h45 par là. Donc, restez à l'écoute. En attendant, on se familiarise avec sa musique. On écoute une chanson en français intitulée « Berceuse » et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles du jour.
Petit enfant, demain ne sera pas aussi sombre. N'aie pas peur, petit enfant, la lumière se jettera dans l'ombre. Qui s'égoutte sur la fenêtre, les fantômes dans ta tête sous ton lit, le tonnerre les fera disparaître. Dans tes rêves, tu le vois chaque nuit. Le visage au regard insondable et ses yeux qui partent tout de suite, le secret qui te rend si coupable. Sombre. N'aie pas peur, petit enfant, la lumière se jettera dans l'ombre.
Matt Stern dans le débrief, on pourra entendre Matt un petit peu plus tard dans l'émission, il va nous faire part de ses intentions en composition, qu'est-ce qu'il veut faire ici à Victoria pendant l'été. Il nous a glissé qu'il voulait donner un spectacle avant son départ, fin août. On va probablement le réinviter, mais en attendant, on pourra faire connaissance avec lui un petit peu plus tard, vers 16h40. C'est le moment de passer à la nouvelle du jour. J'ai quelques petites nouvelles donc à soulever. Dans un premier temps, je vous parle d'une transaction format géant entre Yahoo, le portail internet que vous connaissez sans doute, et le géant Verizon. On a appris cette semaine que Yahoo avait cédé à Verizon ses services internet pour la somme de 4,8 milliards de dollars américains. Le groupe internet américain Yahoo, qui est en difficulté, on le sait depuis plusieurs années, a annoncé qu'il était parvenu à un accord avec le géant des télécoms Verizon pour vendre ses activités de cœur de métier pour 4,8 milliards de dollars US. Le PDG de Verizon, Lowell McAdam, a indiqué dans un communiqué que les activités de Yahoo seraient intégrées dans la même division que celle d'AOL, qui est un vieux portail des tout débuts de l'Internet et qui existe encore. AOL, ça évoquera peut-être quelque chose au plus vieux. Donc c'est un autre ex-fleuron d'Internet qui avait été racheté l'an dernier par Verizon. Donc ce que l'entreprise veut faire, c'est finalement créer un groupe international de médias de premier rang, disent-ils, et accélérer ses revenus dans la publicité en ligne et peut-être essayer d'aller grignoter des parts de marché à Google, pour ne pas le nommer. Le cœur de métier de Yahoo comprend les célèbres services en ligne comme Yahoo News et Yahoo Mail. Peut-être avez-vous une adresse Yahoo Mail. Pour ma part, j'en ai pris une dès l'offre du service. Je crois que c'était fin 96, si ma mémoire est bonne. Donc ce rachat qui devrait être bouclé en début d'année prochaine ne porte pas sur la trésorerie de Yahoo, précisent les différents médias qui publient sur le sujet. Donc la trésorerie de Yahoo, c'est un portefeuille de brevets et les parts que Yahoo détient dans le portail chinois Alibaba et les parts que détient Yahoo dans Yahoo Japan. Donc, et pour ce qui concerne Alibaba, c'est un gros morceau. Le marché chinois est en croissance encore aujourd'hui, ce portail Alibaba est l'une des perles dans le capital de Yahoo. Voilà pour cette nouvelle. Je pense que c'est une de ces nouvelles annonçant la consolidation, comme on en voit souvent dans ce secteur. C'est un petit peu la reproduction du deal qui avait été passé avec AOL l'an dernier. Je tenais néanmoins à vous le signaler. Autrement, en Europe, on le sait, la France a été touchée par de nombreux attentats terroristes depuis plus de 4 attentats là. J'ai depuis janvier 2015, Charlie, Bataclan, Nice, Promenade des Anglais et un dernier en date avant-hier, je crois, dans le nord, près de Rouen. Donc la France touchée lourdement par une vague d'attentats terroristes. François Hollande, comme on l'apprend dans le journal Le Monde, a confirmé la constitution d'une garde nationale. Le président de la République, François Hollande, a officialisé cette semaine la constitution d'une garde nationale qui sera bâtie à partir des réserves opérationnelles existantes, en accord avec le travail parlementaire effectué par les sénateurs. Bon, je vous passe les détails. Grosso modo, j'ai l'impression que c'est une milice. C'est aussi appelé la réserve opérationnelle et le gouvernement souhaite l'impliquer davantage sur le terrain dans la lutte antiterroriste, on s'en doute. Cette réserve donc est ouverte sous certaines conditions aux volontaires, hommes et femmes, dans la police, la gendarmerie, ou l'armée. Donc c'est une idée qui avait été évoquée dès les attentats de novembre dernier dans la boîte de nuit du Bataclan, salle de concert plutôt, et qui a fait son chemin et qui a finalement été confirmée par François Hollande. Donc c'est une des mesures prises en réaction aux attentats récents commis par le groupe État islamique en France. Voilà. Donc, autrement, au Québec, je signale que Richard Bain subit toujours son procès. Richard Bain, c'est cet individu qui avait fait irruption dans une salle où le Parti québécois célébrait sa victoire en septembre 2012. Il avait fait feu avec une arme. Il avait blessé un technicien et en avait tué un autre. Fort heureux. Heureusement, son arme s'était enrayée. Il n'avait pas pu continuer. Son procès, oui, se poursuit au Québec. Malheureusement, c'est un procès qui recueille peu d'attention dans les médias. Je pense que c'est regrettable. C'est quand même un événement assez important qui s'est produit ce soir-là, le 4 septembre 2012. Cet individu-là avait l'intention de tuer plusieurs personnes, dont la première ministre fraîchement élue. C'est Pauline Marois qui avait remporté la victoire victoire électorale contre Jean Charest. Vous pourrez lire sur ce procès dans les médias, surtout francophones. Il semble se dégager pour le moment que le suspect, l'accusé, Richard Henry Bain, souffrait de graves problèmes psychiatriques. Mais son geste était quand même entouré d'une motivation politique, et c'est ce que le procès permettra d'éclaircir en partie. Donc ça se poursuit. C'est dans les médias, dans différents journaux. Vous pourrez suivre cette actualité assez facilement en vous rendant sur votre moteur de recherche préféré. On retourne en musique, on continue notre tour musical des pièces de Matt Stern, un auteur-compositeur-interprète montréalais qui nous rend visite à Victoria cet été. Il est ici pour peaufiner son album qu'il va lancer prochainement. Il travaille sur sa musique cet été. Il a pris un quart d'heure pour nous visiter cet après-midi. Je me suis entretenu avec lui. On écoute encore une chanson de sa composition, une chanson en français qui s'intitule « Dis-moi que tu m'aimes ». On se retrouve de l'autre côté pour la revue de presse. À tout de suite.
Le ciel est beau ce soir. On est tout seul ce soir. J'aimerais savoir quelque chose de toi. On a du temps à perdre. On a des plans à faire. Mais juste avant que le jour commence une autre fois, prends le temps de le dire. Parce que parfois je ne vois pas. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Je t'en supplie. Tout autour de nous, le monde devient fou. Tout distrait en cherchant des choses qui ne peuvent plus les satisfaire. Ça pourrait tout changer.
Tout changer.
Je suis naïf, je sais.
Oui, je sais.
Mais la même chose qu'ils cherchent, nous l'avons déjà. Mais on peut tout perdre si on ne réalise pas. Alors dis-moi que tu m'aimes.
Regarde-moi.
Dis-moi que tu m'aimes.
Choisis l'instant, allez.
Dis-moi que tu m'aimes.
Ici je t'attends.
Dis-moi que tu m'aimes.
Prends le temps de le dire.
êtes dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous de fin de journée en information à l'antenne de CILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute. Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. On va rapidement jeter un petit coup d'œil aux options de sortie culturelle qui s'offrent à nous sur Victoria dans les 48 prochaines heures, on va dire. Je commence avec un événement qui se déroule au Carré Saint-Agnol, tout près de la station CILS, en passant au cœur de Victoria, angle Government et Pandora, grosso modo. C'est la série Eventide. C'est une série qui dure tout l'été. On présente des concerts au Centennial Square. Et ce soir, à partir de 6h, donc ça, c'est dans moins de 2h, on a 4 formations, 4 artistes et groupes qui se produiront sur la scène du Carré Saint-Agnol. Donc vous aurez vraiment une ration copieuse de musique, et tout ça gratuit dans le cadre de la série Eventide Music. Alors, il y a la formation Carseed Headrest, il y a aussi la formation Island Eyes, John's et Wild Child. Vous trouverez les infos afférentes sur le site artsvictoria.ca. C'est tout à l'heure, donc prenez une chance, vous allez faire des découvertes assurément. C'est peut-être à quelques pas de votre travail, donc vous pouvez vous y rendre après le boulot et profiter de ce concert gratuit qui se déroulera jusqu'à 21h30. Autrement, côté cinéma, il y a ce documentaire sur le blues intitulé I Am the Blues à Cine Santa, le cinéma d'art et d'essai du campus de l'Université de Victoria. Je vous en ai parlé hier. Très succinctement, c'est un documentaire qui a été salué par la critique. Il y est beaucoup question des origines du blues, donc c'est un voyage à travers les origines, les sources du blues qui sera sans doute très intéressant pour les mélomanes. Donc ça, c'est à Cine Santa ce soir à 19h et 21h10. On termine avec une option qui se passe en fait au Carré Saint-Agnol, encore une fois, mais ça a lieu le 1er, donc le BC Day, et c'est jusqu'au 5 août. Donc du 1er au 5 août, il y a le Flamenco Festival de Victoria qui s'installe au Carré Saint-Agnol, donc angle Government et Pandora. Vous allez sans doute le voir si vous passez dans le secteur, et c'est sans doute participatif. Il y a sûrement possibilité d'apprendre quelques pas de flamenco, ou d'assister bien sûr à des représentations, des prestations de flamenco. Donc c'est du 1er au 5 août au Carré Saint-Agnol. C'est sur l'heure du midi dans le cadre de la série Lunchtime Concerts. Voilà pour les options que j'avais à vous proposer. On va aller rapidement à la revue de presse du jour dans quelques instants. Restez à l'écoute du débrief, ce sera tout de suite après cet intermède. Voilà, on reprend le fil des infos, le fil rouge des infos dans le débrief. 16h33, on a 25 degrés à Victoria. Donc dans cette revue de presse, je commence par un article du Times. J'ai devant moi un papier du Times qui nous donne les dernières infos concernant le Brexit. Le Brexit, vous le savez, c'est ce référendum qui a eu lieu en Grande-Bretagne le 23 juin. Et la population s'est exprimée à cette occasion en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Donc ça a causé une onde de choc. On en a beaucoup reparlé dans les jours suivants, et on le sait maintenant, la Grande-Bretagne va effectuer une sortie, mais cette sortie va être négociée. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Alors on apprend dans cette nouvelle du Times aujourd'hui que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a choisi son négociateur en chef. Il s'agit de Michel Barnier. C'est un ancien ministre français. Il a aussi été commissaire européen dans le passé. Et ce qui est assez amusant, c'est que Michel Barnier, c'est pas quelqu'un qui a des atomes crochus avec la Grande-Bretagne. C'est plutôt quelqu'un qui s'est opposé à des politiques de la Grande-Bretagne lorsqu'il était commissaire européen. Il avait notamment fortement critiqué les règles bancaires britanniques. Il avait beaucoup attaqué la City. Vous connaissez la City, c'est la place financière de Londres, l'une des plus importantes de la planète. Elle est vraiment dominante, cette place financière. Beaucoup de volume, des transactions qui passent obligatoirement par elle, donc elle pèse très lourd, et justement Michel Barnier avait critiqué cet écosystème très particulier et très propre à la Grande-Bretagne. Il avait beaucoup critiqué les banques, et c'est celui qui a été choisi précisément pour négocier le Brexit. Et on apprend dans cet article du Times que Monsieur Barnier a même un petit côté troll, puisqu'il a choisi de mener ses négociations, il insiste pour négocier avec ses homologues britanniques en français. Donc c'est pour souligner que la Grande-Bretagne a perdu finalement sa langue quelque part en quittant l'Europe. On sait que l'Europe fonctionnait en anglais depuis des années, et c'est sans doute une façon pour Barnier de rappeler que on ne quitte pas cette union à la légère et sans conséquence. Donc toutes les négociations, Barnier veut les mener en français, et ça commence sur cette note. Donc on verra ce que ça donnera. C'est une approche un petit peu antagoniste. Qui sait, peut-être que ça donnera des résultats intéressants. Ce sera à suivre assurément. Autrement, je vous parle d'un papier publié dans Rabble.ca, qui est un média indépendant canadien fortement marqué à gauche. C'est un média de progressistes. Il y a un petit papier signé Linda McQuaig dans Rabble.ca aujourd'hui. Ça concerne la révolution de Bernie Sanders, révolution qui malheureusement a pris fin avec la nomination officielle de la candidate démocrate à la présidentielle, Hillary Clinton, à la convention démocrate de cette semaine. Mais ce que retient Linda McQuaig dans ce papier de Rabble.ca sur l'extraordinaire vague Sanders, tous ces Bernie-acs, toute cette jeunesse qui l'a appuyé avec beaucoup d'énergie et qui lui l'a financé à coup de petites contributions de $20, il a réussi à opposer à Hillary Clinton un discours qui était rafraîchissant et qui apportait justement, qui obligeait sa rivale Clinton à s'adapter et à s'ajuster. Ça n'a pas été une course de tout repos pour Hillary Clinton. Donc c'est un peu ce que dit en substance Linda McQuaig. Je vous lis un passage en traduction simultanée, donc soyez indulgents. La jeunesse pro-Sanders qui a menacé de faire dérailler la convention démocrate dès son ouverture ne s'effacera pas de sitôt, écrit McQuaid. Cette jeunesse donc est déterminée à façonner le Parti démocratique dans l'avenir. Elle croit que la seule façon de répondre à l'establishment et à ces milliardaires qui contrôlent maintenant le Parti démocrate, c'est de faire preuve de rigidité, de affirmer les positions, les insister, ne pas prendre sa place sagement, ne pas se rasseoir quand on nous demande de nous taire. Donc c'est une approche très militante. Cette jeunesse donc pro Sanders croit que le parti démocrate lui appartient et elle agit en conséquence. Donc c'est le propos de Linda McQuaig dans le portail arable.ca, dans ce papier paru aujourd'hui que je vous recommande fortement. On a encore un petit peu de temps. Je vous parle d'un papier signé par l'économiste Léopold Lauzon, qui lui aussi est très marqué à gauche. Ses prises de position sont un peu confuses. Parfois, je crois qu'il écrit ses chroniques très rapidement et il y a des problèmes dans la construction des phrases et dans la structure grammaticale. Parfois, c'est un petit peu bancal, mais c'est un type qui connaît très bien sa matière et qui s'appuie sur des faits qu'il collige de façon rigoureuse. Donc, on a beaucoup parlé de pipeline dernièrement. On a parlé bien sûr du Trans Mountain ici en Colombie-Britannique. On a parlé du Northern Gateway un peu plus au nord en Colombie-Britannique toujours. Et ces derniers jours, on a parlé du pipeline Husky Energy qui s'est rompu et qui a déversé plus de 250 000 litres de produits pétroliers, rien de moins, dans la rivière Saskatchewan Nord, qui est une source d'eau potable pour des milliers de gens en Saskatchewan. Donc, les pipelines, on en parle beaucoup, c'est dans l'actualité. Et si vous êtes originaire du Québec, vous savez que c'est dans l'actualité québécoise également. Là-bas, au Québec, c'est Énergie Est qui cause beaucoup de débats et qui oppose environnementalistes et pro-industrie pétrolière. Donc, Léopold Lauzon, dans ce texte, lui, veut mettre les pendules à l'heure. Il estime que le premier ministre Philippe Couillard, le premier ministre du Québec, va donner son accord à la construction du pipeline Énergie Est de la multinationale TransCanada. Donc c'est un pipeline qui, s'il est construit, fera 700 km à travers la province du Québec. Il traversera plus de 800 cours d'eau, imaginez. Donc c'est autant de risques sur toute cette distance. Il traversera aussi des milieux humides, des terres agricoles et plusieurs municipalités. Voilà. Donc, quand on sait que les accidents de pipeline sont nombreux, Monsieur François Brassard de l'organisme Dogwood Initiative ici, qui travaille beaucoup dans Esquimalt, nous l'a rappelé. Les accidents de pipeline sont fréquents. Alors, imaginez quand on voit que Énergie Est va traverser 800 cours d'eau et plusieurs municipalités, des milieux humides et des terres agricoles, c'est pas rassurant. Et selon Léopold Lauzon, l'auteur de ce texte paru dans le Journal de Montréal, où il tient un blog. Donc, Lauzon estime que le premier ministre Philippe Couillard va donner son accord à ce projet, même s'il fait semblant d'avoir des réserves. Et là, je paraphrase un petit peu le propos de Lauzon. Même si le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, fait semblant d'avoir des réserves, il va finir par approuver ce projet porté par la multinationale TransCanada. Alors, c'est très bien argumenté. Il y a plusieurs faits. Lauzon se base sur des informations des dernières années et plusieurs citations et gestes posés par le premier ministre Couillard et donc tout ça additionné bout à bout laisse entrevoir qu'effectivement le gouvernement du Québec va donner son feu vert à ce projet pétrolier. Alors si vous vous intéressez aux pipelines, on en a beaucoup ici dans l'ouest du pays et on a appris leur existence dans les prairies aussi en Saskatchewan avec le déversement de cette semaine. Eh bien ils existent aussi, ils sont aussi l'objet de vifs débats dans l'est du pays, au Québec et dans les maritimes. Et donc cet article vous permettra de vous mettre à la page concernant Énergie Est. Voilà, donc voilà pour ce papier. Autrement, j'aurais peut-être un texte paru dans la zone club du portail indépendant Mediapart.fr. Dans ce texte, l'auteur Mathias Delory fustige un texte paru dans Le Monde. Il fustige un éditorial publié dans le journal Le Monde. Donc, il s'attaque à des confrères à travers ce blog. Et c'est un blog, vous le devinez peut-être, qui concerne la question du terrorisme en France. Donc, Mathias Delory, dans ce texte, fait remarquer au Monde que c'est la France qui a attaqué l'État islamique en premier. Évidemment, ça ne justifie en rien les actes qui ont été commis, mais il fustige ce texte paru dans Le Monde, dans lequel, c'est un éditorial officiel du journal Le Monde, dans lequel le directeur du journal Le Monde, Jérôme Fenoglio, écrit que que la France n'a pas frappé l'État islamique en premier, mais l'État islamique plutôt qui l'a frappé en premier. Donc, ça change un petit peu le débat. C'est une information importante et l'auteur s'étonne dans ce texte, donc Mathias Delory, il s'étonne que Le Monde ait omis ou plutôt est ignoré la vérité. Donc c'est factuellement faux, souligne-t-il, et non seulement c'est factuellement faux que l'État islamique a attaqué la France en premier, mais c'est aussi politiquement irresponsable. Donc je vous recommande ce texte, c'est en lecture libre, c'est signé par Mathias Delory dans le portail indépendant Mediapart. Donc on avance beaucoup et très rapidement, il faut se rendre à l'interview qui sera beaucoup plus légère, je vous le promets. Donc je reçois aujourd'hui l'auteur, compositeur, interprète montréalais Matt Stern qui passe l'été à Victoria. Il travaille actuellement à finaliser son album, son plus récent album qu'il va bientôt lancer. Vous pourrez entendre cette interview dans quelques instants. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On arrive sur la fin de l'émission en ce 28 juillet. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec un musicien montréalais qui nous rend visite à Victoria cet été. Il se sert du cadre agréable de Victoria pour s'inspirer, j'imagine. Il s'agit de Matt Stern. Il est avec moi en studio. Bonjour, Matt.
Bonjour, Alexis.
Alors, tu es venu de Montréal pour passer l'été à Victoria. C'est pas mal comme programme. Est-ce que tu as de la famille ici? Comment as-tu décidé de venir à Victoria?
Justement, j'ai deux grands frères qui habitent ici. Pour l'instant, il y en a un des deux qui va déménager à Las Vegas bientôt. Mais c'est ça, deux frères et ma belle-sœur habitent ici. Fait qu'au départ, je suis venu pour les rendre visite
ouais.
à mes parents pour une semaine, mais je me suis dit que j'adore ça ici.
Ouais.
Et alors, j'ai décidé de rester tout l'été, d'explorer, faire des projets musicaux.
Génial, génial. Donc, est-ce que tu connaissais auparavant ou c'est la première fois que tu viens à Victoria?
J'étais venu une couple de fois, mais juste pour 2-3 jours chaque fois, une semaine max. Puis chaque fois, je me disais que ça ferait tellement du bien de pouvoir m'installer un peu
ouais.
ici.
Donc, t'as pris vraiment l'été sans obligation, tu oui. profites de l'été pleinement?
Oui, vraiment.
est-ce que tu trouves que Victoria, comme je l'ai affirmé dans l'intro, est propice à l'inspiration?
Oui.
Oui?
Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais surtout la nature, juste être entouré oui. des arbres et de l'océan, tu sais, ça...
Ah oui.
C'est profond, je trouve.
C'est énorme, hein, effectivement. Parlons de ta musique. Tu la décrirais comment?
J'ai tendance à dire pop folk soul, comme je t'ai dit tantôt.
Oui.
Parce que ça couvre pas mal la variété. Mais, mm-hmm. Mais j'aime tous les styles de musique. Tu sais,
oui.
Je dirais aussi que c'est en train de changer. Chaque fois que je fais des collaborations avec d'autres mondes, ça change complètement. Je travaille sur un projet en ce moment qui... On inclut des beats comme
ouais.
de danse un peu plus, ouais. tu sais.
Ça bouge un peu plus. Donc,
ouais.
OK, excellent. Donc, les auditeurs de l'émission ont pu entendre tout à l'heure quelques titres de ta part. Donc, ils ont déjà une idée un petit peu. Et si ça leur plaît, ils font quoi pour te connaître davantage? Est-ce qu'ils peuvent acheter ton CD, acheter des morceaux sur Internet?
Oui, tout à fait. Toutes mes disques sont sur iTunes.
Oui.
C'est comme ça que ça marche de nos jours.
Donc, on te trouve facilement sur iTunes en tapant Matt Stern. Il n'y a pas de mystère, c'est direct.
Non, c'est mon nom.
OK.
Puis j'ai un album et 4 EP qui sont sur iTunes en ce moment.
Génial.
Sinon, j'ai un site, mattstern.com.
OK. Et sur ce site, on peut écouter quelques pièces.
Oui, exactement.
OK, formidable. Est-ce que tu arrives à vivre de ta musique à l'heure actuelle? Et est-ce que c'est ça, finalement, ton projet?
Ça, c'est une bonne question. Je te dirais honnêtement que je n'ai pas encore essayé vraiment de faire ça. J'ai toujours comme... Je ne sais pas si ça se dit en français, mais mes mains dans plusieurs projets.
Oui.
Comme... C'est... j'aime cette variété dans la vie. Mm-hmm. On dirait que ça ne m'a pas encore tenté de faire juste une chose. En même temps, c'est... Quand je focus sur la musique, je suis dans mon état le plus heureux, tu sais.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que c'est toujours une question que je vis avec.
Ouais.
Mais non, je te dirais que c'est pas le but final, disons.
D'accord.
De faire de la musique. C'est vraiment intrinsèque.
Ouais. Pas de carrière avec un C majuscule, mais quand même une présence constante de la musique. Tu vas pas la laisser de côté.
Jamais.
Après tes études, qui sont sans rapport avec la musique. Tu m'expliquais que tu étudiais à l'université actuellement. Dans quel domaine déjà?
J'étudiais en éducation.
Oui.
Et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'éducation alternative.
Oui.
Et comme j'utilise la musique dans tout ce que je fais, comme quand j'étais dans les salles de classe, je chantais avec les étudiants. Fait que c'est ça qui m'inspire de faire, oui, une carrière en musique, mm-hmm. mais pas dans le sens comme mainstream, disons. T'sais, c'est pas de vouloir être célèbre, c'est pas le but. T'sais, c'est mm-hmm. de vraiment créer des liens, comme la guérison, on pourrait même
oui,
dire.
Oui, oui, oui.
Je trouve que c'est vraiment ça qui m'inspire.
D'accord. Et tu vas donc passer l'été ici à Victoria et tu m'as glissé tout à l'heure hors d'antenne que tu allais peut-être te produire sur scène avant ton départ, avant ton retour à Montréal. Est-ce que tu as déjà identifié une salle, une venue pour ton spectacle pour qu'on puisse se préparer, peut-être inscrire dans l'agenda d'aller voir ton spectacle?
Ah, j'aurais aimé ça pouvoir te donner des détails tout de suite, mais non, pour être honnête, ce que j'ai en tête maintenant, c'est un plan d'enregistrement d'album, fait que c'est un peu ma priorité en ce moment.
OK, mais durant l'été?
Oui.
Ah, d'accord,
oui,
OK.
Oui, je vais faire ça dans 2 semaines.
OK.
Je rentre dans le studio.
Donc, c'est du matériel que ceux qui te connaissent n'ont pas encore entendu, peut-être?
Pour la plupart. Il y a des chansons que j'ai comme remis de vie dedans.
Oui.
Qui sont plus anciennes.
Ouais.
Mais il y a des nouvelles tunes là-dessus aussi.
Alors... Super. Donc, Matt Stern, c'est quoi tes influences, dirais-tu, tes influences en musique? C'est ce qui t'a convaincu de faire de la musique? Ce qui t'a inspiré, donné l'envie d'en faire?
C'est de pouvoir exprimer des choses les paroles sont limitées.
Mm-hmm.
Parfois frustré par ce fait-là qu'on n'a pas... Je peux pas tout exprimer juste en parlant.
Oui. Mais est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé?
Ah oui, c'est clair.
Ouais.
Surtout des artistes avec un vibe très positif comme Bob Marley traditionnellement.
Ouais.
T'sais, mes artistes préférés sont des artistes qui parlent du cœur.
Ouais.
Comme Tracy Chapman, comme j'ai une amie à Montréal avec qui je chante beaucoup qui s'appelle Kira Shaughnessy. Et je lui dis chaque fois que j'entends chanter que ça me fait pleurer à chaque fois parce que c'est tellement honnête, tellement sincère. Et, tu sais, alors c'est surtout des artistes comme ça. Aussi, tu connais-tu Angélique Kidjo?
Non, malheureusement.
C'est une chanteuse béninoise.
D'accord.
Qui fait beaucoup de collaborations. Elle fait de l'activisme aussi.
Ouais.
Elle lit la musique avec des causes un peu, mais pas de façon forcée,
mm-hmm.
de très naturelle. Et ça aussi, ça m'inspire beaucoup.
Il t'arrive de chanter en français. Quelle place occupe la langue française dans ton univers créatif?
Ben, je pourrais. C'est vraiment le fun de pouvoir parler français avec toi ici. Tu sais, être hors du Québec et parler français, c'est génial.
Oui, oui. C'est assez étonnant, oui.
Et en fait, être séparé de la question politique aussi, mm-hmm. parfois, c'est. Pas que c'est le fun.
C'est reposant.
Oui, disons.
Oui.
Mais c'est ça, la langue m'inspire beaucoup. T'sais, c'est une façon d'interagir avec d'autres mondes et de se mettre dans leur monde.
Oui.
Je parle quelques autres langues aussi.
Ah oui?
Ça m'a toujours...
Lesquelles?
Le japonais.
Arrête. C'est vrai? OK. Oui,
l'espagnol. Et ça m'a surpris, encore une fois, d'être ici à Victoria où c'est plus... On s'entend que c'est moins varié comme culturellement.
Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de japonais en ville.
Oui,
oui, on entend beaucoup de...
Ouais. Beaucoup de touristes japonais.
C'est ça.
Mais j'ai un bon ami avec qui je pratique mon japonais. Mm. Lui, il pratique son anglais.
Ouais. Il y a beaucoup d'étudiants à Camosun et UVic aussi qui sont originaires du Japon.
Oui. C'est plus proche, n'est-ce pas?
Oui, j'imagine que ça joue beaucoup. On a entendu une chanson chantée en français de ta part qui s'intitule Berceuse. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu?
Oui, ça c'est une chanson très importante pour moi. Parce que c'est en français, j'adore ça, chanter en français. Et aussi parce que ça traite du thème de la peur, qui est, je sais pas, important pour tout le monde.
Mm.
Mais ça a joué un rôle assez profond dans ma vie, je trouve. Et aussi, en étudiant en éducation, je travaille beaucoup avec les enfants. Et dans la chanson, je m'adresse à un enfant, mais c'est vraiment pour tout le monde.
Mm-hmm.
Et c'est cette question de, c'est correct que t'as peur, mais ça va être correct. Et juste comme...
C'est pour ça que ça s'appelle Berceuse, quelque part.
Oui, exactement. C'est comme...
Ah, c'est joli. OK. T'as pas encore d'enfant, je crois pas.
Non, pas encore.
OK. Mais ça pourra servir un jour, peut-être.
Ouais.
Tu sais. Matt Stern, un grand merci d'être passé à l'émission.
Ah,
c'est comme une révélation. Aujourd'hui, on m'a parlé de toi en matinée. Et voilà, voilà que tu es dans le studio avec moi et j'ai pu découvrir ta musique et j'espère que les auditeurs seront tentés d'en apprendre davantage à ton sujet en allant sur le site web mattstern.com tout simplement et en allant te voir sur scène à une date qui reste à déterminer.
Oui, faudrait que je planifie ça.
Une date qu'on va connaître prochainement. T'es là jusque début septembre, fin août ou début septembre?
Fin août.
OK. Ben j'aimerais que tu reviennes à l'émission peut-être juste avant le spectacle hypothétique, probable.
Jouer une tune.
Oui, c'est ça. Si tu peux amener un instrument, ça serait génial. Merci beaucoup, Matt.
Merci à toi, Alexis.
Écoute, c'était Matt Stern dans le débrief. Merci d'avoir été à l'écoute de l'émission. On va se laisser dans quelques instants avec une autre pièce de Matt. Avant, je vous redonne la météo. On est actuellement 26 à Victoria, au centre-ville comme à l'aéroport, à proximité de Sydney. Ce sera dégagé en soirée et ça reste dégagé au cours des prochains jours. C'est un scénario qui se répète aussi loin qu'on peut voir si l'on en croit Environnement Canada sur le site météo.gc.ca. Donc demain, 25 degrés avec du soleil. Samedi, 23 degrés avec du soleil. Et dimanche, 22 degrés avec du soleil. Et pour le BC Day, en ce lundi 1er août, jour férié, pour vous, je l'espère, et pour la plupart en tout cas, on aura 24 degrés et une journée très ensoleillée. Merci d'avoir été à l'écoute. Allô la planète suivra à 17h. On se laisse avec une pièce de Matt Stern intitulée Paris. Bonne soirée à tous.
Hey, what are you gonna say when you look back and wonder how do we end up this way? Paris was such a long way away, but we didn't have nobody else, so we got on the plane.
cher amour, mon cœur est plein d'inquiétude. I'm here on the kitchen floor. Hey, come into my room.